France Culture, la série musicale d'été, Antoine Lachant.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle série musicale d'été qui, toute cette semaine, va vous secouer, vous faire frissonner, peut-être pleurer, une série consacrée aux émotions.
Got me crying, crying again. When will you let this heartache in? Emotion, you get me upset. Why make me remember what I wanna forget? I've been lonely. Lonely too long. Emotions, please leave me alone. You worry my days, yes, you torture my nights. Never a dream, no, those dreams never turn out right. Emotion, you see what you're doing to me. Emotions, please set me free. You worry my days, oh, you torture my nights. Never a dream, no, those dreams never turn out right. Emotions, give me a break. Oh, let me forget that I made a mistake. Oh, can't you see what you're doing to me? Emotion, please set me free.
C'est l'américaine Brenda Lee qui, en 1963, se faisait porte-voix des émotions, toutes sortes d'émotions. Plutôt heureuses, on l'espère, même si, on le sait, en chanson, voire en musique en général, le chagrin d'amour n'est jamais très loin. Émotions, des émotions. En effet, la série musicale se penche tout l'été sur le vivant en musique. Et quoi de plus vivant que de ressentir des émotions ? Alors, cet adagio d'Albinoni, ça vous a plu? Une émotion peut-être? Triste sans doute, hein, mélancolique. Ah, la tristesse, émotion évidemment centrale en musique, sur laquelle on reviendra demain, puisque chaque jour de la semaine, on va s'attarder sur une émotion dite primaire, c'est un peu comme les couleurs, et ça nous fera ensuite aborder la peur, la colère et la joie. Mais aujourd'hui, où l'on va tenter, bien modestement, d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement d'une émotion musicale, eh bien avec cet adagio triste, on touche déjà au premier paradoxe. Que vous ayez ou pas ressenti quelque chose en écoutant cet air, je doute que vous soyez vraiment peiné, comme on peut malheureusement l'être dans la vie. Et vous avez peut-être même pris du plaisir à l'entendre, tout en trouvant ça extraordinairement mélancolique. Si en plus, je vous dis que ce n'est pas un morceau baroque, mais une composition de 1945, alors là, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, une émotion musicale, donc, ça fait écho à nos vraies émotions, ça les rappelle, ça les stimule, mais c'est quand même quelque chose de différent, et c'est pour ça que c'est si agréable.
Each night I meant to say I missed her through the day, but I forget it. I never said it. I passed the flower shop. Lord knows I meant to stop, but I'd say tomorrow. Perhaps tomorrow. Tomorrow there'll be time. There'll always be another spring. Time to make her laughter ring. Time to give her everything. Oh, my Angelica. My Angelica. There's so much you never knew. So much I always meant to say and do for you, for you.
C'est fou ce qu'on peut faire avec une même mélodie, n'est-ce pas, hein, d'une chanson qui parle de solitude, d'un amour perdu dans la belle voix du regretté Scott Walker, mort l'an dernier, qui venait de quitter, juste avant cette Angelica de 1967, une vie de fan en transe pour passer à des morceaux plus sombres, comme celui-ci, avec par exemple aussi des traductions en anglais de Jacques Brel notamment. Et bien de cette chanson mélancolique, on a fait l'hymne tonique, résilience et tout, du premier grand et très populaire concours de chant de téléréalité en 2001, Feu, la fameuse Star Academy, un énorme succès.
Vous l'entendez? La musique, elle est partout autour de nous. Il suffit juste de s'ouvrir à elle.
Donc même si certains, assez rares je crois, cherchent dans la musique sa partie émotionnelle dès la partition, à travers des études d'harmonie et de rythmique très savantes et assez convaincantes, eh bien il est clair que l'émotion en musique, c'est le morceau bien sûr, mais aussi beaucoup plus que ça. Sa durée, la voix, les arrangements, le rythme, la taille de la formation, les instruments et tout et tout. Je considère la musique, par son essence, impuissante à exprimer quoi que ce soit. Un sentiment, une attitude, un état psychologique, un phénomène de la nature, etc. L'expression n'a jamais été la propriété immanente de la musique. Donc pour Igor Stravinsky, qui publie ses lignes en 1935, pas d'émotion en musique. Pourtant, à l'écoute du Sacre du printemps, chef-d'œuvre créé en 1913, dont on entend encore un extrait du deuxième tableau, on est quand même quelques-uns à ressentir des émotions. Et Stravinsky lui-même avait aussi déclaré que l'œuvre cherchait entre autres à exprimer la montée de la nature qui se renouvelle.
Thank you.
En fait, c'est juste qu'au début du XXe siècle est en train de se refermer, au moins partiellement, une période d'environ 4 siècles au cours de laquelle on a voulu relier directement la musique à l'émotion. Mais composer pour toucher, toucher au sens où nous l'entendons, n'a pas toujours été l'objectif premier jusqu'au XVIe siècle. Et l'héritage de la pensée grecque de la mimésis, énoncé notamment chez les philosophes Platon et Aristote, s'est fait sentir bien longtemps. Dans l'Antiquité, la musique éblouit surtout en ce qu'elle représente une vraie harmonie, un système, une imitation parfaite de la réalité qui doit séduire les hommes et les conduire dans la bonne voie.
Ikon ilithos imi, tithis imi sikilos en thamnimis athanatu sima polychronium.
Donc jusqu'à la Renaissance au moins, on peut dire que ceux qui composent la musique ne cherchent pas directement à plaire, mais à respecter une harmonie et dans le même temps à s'adresser à Dieu ou aux hommes pour exciter leur instinct guerrier, par exemple. Et ce serait le grand Claudio Monteverdi et la fine fleur de la musique vénitienne qui, au tournant du XVIe-XVIIe siècle, aurait donné toute sa place à l'émotion, prenant quelques libertés avec les règles de composition musicale alors en vigueur pour qu'on puisse mieux entendre les textes chantés.
Volete voi ch'io mori?
Non più guerra, plus de guerre, tiré du quatrième livre de Madrigo que fait paraître Monteverdi en 1603. On commence à mieux entendre les paroles, à accorder leur sens à la mélodie, à jouer parfois de dissonances expressives. Et les polyphonies vont peu à peu laisser plus de place à des chants solistes chargés de plus d'affect. On est au moment exact où un théâtre musical d'un genre nouveau, plein d'émotions, se forme et va prendre de l'ampleur, l'opéra. Un extrait de l'Orfeo de Monteverdi. Mais au-delà de cette fructueuse tension entre paroles et mélodies, disons pour simplifier qu'il faudra ensuite attendre la période romantique en Europe, donc le XVIIIe siècle environ, pour qu'on cherche alors l'émotion dans la seule musique instrumentale, sans le chant. Tenter de toucher un absolu de manière directe, comme chez Chopin, Berlioz, Beethoven ou Liszt, qui écrivait en 1855, le sentiment lui-même vit et rayonne dans la musique, sans être habillé d'images, sans acte médiateur, sans pensée médiatrice.
j'étais à peine un peu plus âgé que mon fils, j'ai écouté le début de la cinquième symphonie, ce qu'on appelle les coups du destin. Jamais je n'avais entendu ça et je me suis mis à pleurer. Et ma mère m'a dit, mais qu'est-ce que tu as, pourquoi tu pleures? Et à ce moment-là, je me suis caché, j'ai menti, j'ai dit, je pleure parce que tu vas partir tout à l'heure. Et ce n'est pas pour ça que je pleurais. Alors j'ai eu honte de ça. Voilà.
Le deuxième mouvement de la cinquième symphonie de Beethoven par le Concert des Nations sous la direction de Jordi Savall, plus les pleurs évoqués dans Interactualité en 1975 par Léo Ferré, ça nous donne l'occasion de tenter de se mettre d'accord sur ce qu'on entend vraiment par émotion, pour la distinguer du sentiment qui est plus durable et plus conscient. Alors même qu'il existe depuis Descartes des dizaines de listes d'émotions, primaires ou plus ou moins composites, on va ici considérer dans cette série à chaque fois que les émotions ont une petite dimension purement physique. Un frisson, un hérissement cutané, la variation du rythme cardiaque, les rires, les larmes, le mouvement du corps, les expressions du visage, l'intensité de la voix, etc. Les émotions se manifestent sur le théâtre du corps, les sentiments sur celui de l'esprit, expliquait en 2003 le neuroscientifique Antonio Damasio. Alors quand en 1978, une jeune Britannique talentueuse du nom de Kate Bush convoque, en plus de la mélodie et de sa voix, les héros romantiques d'Emily Brontë, disant combien elle a froid dehors, eh bien pas sûr que nos corps à nous restent indifférents devant ce « Wuthering Heights ».
Oh,
Si l'on est romantique jusqu'au bout, on va considérer que la musique, dont la spécificité est d'être à la fois abstraite et puissamment chargée d'émotions, eh bien ça transmet en fait l'émotion du compositeur au moment même où il l'a créée. Bon, mais bien sûr que ce n'est pas si simple, car à l'autre bout de la chaîne d'écoute, il y a vous et moi, l'auditeur, et sa vie d'apprentissage et de moments forts qui peuvent entrer en résonance avec ce qui s'offre à l'oreille. Vivant, chacun a ou non, selon les moments, la propension à vibrer sur la musique de Mozart ou Pierre Schaeffer, John Coltrane ou Madonna, Brigitte Fontaine ou Daft Punk.
L'aspect de la nostalgie, on a toujours essayé de l'entretenir. Donc si on prend des morceaux comme One More Time ou même Around the World, il y a quelque chose qui nous a toujours intéressé dans l'idée effectivement de faire de la musique de danse qui a un certain relief émotionnel. La manière la plus pertinente d'exprimer une émotion musicale, c'est quand on est à cheval entre la tristesse et le bonheur. Parce qu'à ce moment-là, il y a un contraste entre quelque chose de joyeux et c'est des larmes qui sont un peu à cheval entre des larmes de joie et des larmes de tristesse aussi.
La série musicale d'été, Antoine Lachant.
Emotion, titre extrait du troisième album de Daft Punk, mixé avec l'extrait d'une interview des Hommes Casqués en 2013. On l'a dit, chez l'auditeur, l'émotion musicale provoque a priori une réaction physique pas ou peu contrôlée, surprenante, au moins un instant. Évidemment, il y a la danse, physiquement, mais dans les recherches sur l'évolution, certains établissent même des correspondances entre l'invention du rythme et la marche, par exemple. « groove, swing, qui veut dire balancement, dans la musique du XXe siècle, on a repris ces termes qui font explicitement référence au mouvement du corps, comme pour dire l'euphorie parfois de la pulsation. Un soir au club en 1967, pas sûr que derrière ce morceau, Person I Knew de Bill Evans, enregistré ici live à New York, vous ayez perçu toute la souffrance de ce grand pianiste de jazz au moment où il composait, dévasté par la mort d'un de ses amis musiciens et membre de son trio. Donc la musique résonne avec ce que l'on sait, ou pas, de l'interprète. Et ainsi, la chanson est magnifique, mais pour le temps qui reste, ultime enregistrement de Serge Reggiani avant sa mort en 2004, avoir une petite idée des tourments qu'il a traversés, qu'on croit entendre aussi dans sa voix, qui dit pourtant une inextinguible envie de vivre, c'est bouleversant.
Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures? Combien? Quand j'y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Combien de temps encore? Combien? Je l'aime tant le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler, et voir et croire et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant le temps qui reste. Je ne sais plus où je suis né, ni quand. Je sais qu'il n'y a pas longtemps que mon pays, c'est la vie. Je sais aussi que mon père disait, le temps c'est comme ton pain, garde-en pour demain. J'ai encore du pain, encore du temps, mais combien? Je veux jouer encore, je veux rire de montagnes de rire, je veux pleurer de torrents de larmes. Je veux boire du bateau entier de vin de Bordeaux et d'Italie. Et danser, griller, voler, nager dans tous les océans. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Je veux chanter, je veux parler jusqu'à la fin de ma voix. Je l'aime tant le temps qui reste. Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je veux des histoires, des voyages. J'ai tant de gens à voir, tant d'images. Des enfants, des femmes, des grands hommes, des petits hommes, des marrons, des tristes, des très intelligents et des cons. C'est drôle, les cons, ça repose. C'est comme le feuillage au milieu des roses. Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je m'en fous, mon amour. Quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore. Quand les avions ne voleront plus, je volerai tout seul. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore. D'accord ?
Partons à présent, car même si on n'a pas l'expérience ou les codes pour appréhender certaines musiques du monde qui ne répondent pas à notre gamme diatonique, celle qui structure la musique occidentale, rien n'empêche d'être touché par des musiques venues d'Iran, de Java, ou ici d'Inde du Nord avec Shahid Parvez, un grand sitariste contemporain. Les premières notes qui sortirent de son sitar résonnèrent dans la salle emplie d'une émotion palpable, mais encore contenue. Comme si le cœur de chaque auditeur était suspendu aux cordes de Shahid Parvez. Chaque mouvement mélodique trouvait un écho parmi l'auditoire. À une note répondait un gémissement, un soupir, une exclamation extatique. Puis soudain, ce fut une explosion. L'artiste tira de sa corde l'ultime saveur qui renversa tout le monde. Pas d'applaudissements ni de clameurs d'appréciation. Non, un flot qui se déversait de ses corps en mouvement envahit d'émotion. Voilà la description d'un concert de Shahid Parvez que vous entendez en ce moment. C'était lors d'un festival de musique à Kolkata en 2007 et c'est décrit par Jeanne Miraon-Bonnour dans l'ouvrage « Musique, signification et émotion ». musique, c'est aussi du temps. Donc il y a des projections, une certaine espérance à mesure que l'on écoute. Certains théorisent même que l'émotion pourrait naître de ce que nous avons tous cette attente, par exemple la consonance, et du fait qu'au cours du morceau, elle soit résolue ou au contraire, irrésolue. Ou pour le chant, en particulier les sommets du bel canto, il y aurait jouissance de l'issue heureuse du morceau après avoir eu tellement peur que la voix se casse. Je ne sais pas en tout cas ce que j'ai pu projeter sur ce morceau de Portishead, de Rip, ce jour où on me l'a fait écouter pour la première fois dans un car qui descendait une route enneigée, quelque part dans les Alpes, mais j'ai pleuré.
Thank you.
sûr, c'est que vos émotions musicales intéressent. Les artistes, ça va de soi, mais à l'heure de la toute-puissance des plateformes de streaming, nouveaux géants de la musique qui s'appellent Spotify, Deezer ou iTunes, eh bien, eux aimeraient bien parvenir à classer la musique par moods, savoir ce qu'un objet sonore a dans le ventre. Alors, des instituts d'études recueillent les impressions d'auditeurs témoins et leur font ranger les musiques. Et ce n'est pas facile parce que derrière le même terme, entraînant, élégant ou joyeux, l'un va mettre une sensation et quelqu'un d'autre une autre. Alors certes, la musique occidentale nous dit qu'a priori, mineur c'est triste et majeur c'est gai, mais là encore, c'est pas si clair. Et bien sûr que c'est très bien ainsi, comme avec ce « Sous la pluie » signé Juliette Armanet.
Je marche lentement sous la pluie, sans penser à rien d'autre que lui. Je vois l'eau qui tombe, l'eau qui tombe, l'eau qui tombe. Tout l'amour inassouvi s'effacera sous la pluie, je n'y verrai plus que du feu, ce sera merveilleux. L'amour inassouvi s'effacera sous la pluie, je n'y verrai plus que du feu, ce sera merveilleux.
En demi-teinte, ce titre de Juliette Armanet qui nous dit peut-être quelque chose du plaisir bien particulier qu'il y a à écouter de la musique triste. C'est ce thème, la tristesse, qu'on va aborder demain et auquel colle aussi cette Aconcagua du compositeur et bandoneiste argentin Astor Piazzolla, enregistrée ici en 1983 avec l'orchestre de la radio de l'Allemagne du Sud-Ouest. C'était Entrée en émotion, premier épisode d'une série musicale proposée par Antoine Lachant, réalisée par Alexandre Fougeron, avec Jérémy Kaufmann et Edouard Rubinstein à la technique. Merci pour leurs indispensables recherches à Anne-Lise Signoret, Romain Couturier, Émilie Berthaud, Vincent Frémaux, Nathalie Rouvillain et François Merlin à Radio France, ainsi qu'à Anne Brulant de l'INA. À demain.
France Culture, l'esprit d'ouverture.